Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Moins de chômage, plus de précarité. Derrière les derniers chiffres de l'emploi en France, les signes d'une forte reprise, mais d'un marché du travail moins stable aussi. L'hôpital est en crise. Un lit sur cinq fermé dans les grands établissements publics. Au départ de personnel s'ajoute un taux d'absentéisme en hausse et des difficultés de recrutement. Nous serons à Marseille. Dans l'actualité encore, Patrick Buisson au procès des sondages de l'Élysée. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy se défend. L'ancien collaborateur de Carlos Ghosn, Greg Kelly, en première ligne du procès à Tokyo. Il parle à France Inter. Et puis le droit funéraire aussi doit s'adapter à la société et aux évolutions de la famille. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien au téléphone sonne, nous parlons des frères et sœurs dans une famille lorsque naît un enfant handicapé. C'est le thème du livre de Clara Dupont-Monod, S'adapter, qui vient de recevoir le prix Fémina. Elle sera avec nous Clara et avec vous qui avez envie de partager ces morceaux de vie. Qu'est-ce qu'on dit aux aînés? Comment on fait pour ne jamais oublier de les avoir à l'œil, pour qu'ils ne se sentent pas oubliés? Comment on leur explique? Comment on les accompagne? Le standard est ouvert au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est une baisse spectaculaire. Sur un an, le nombre de chômeurs a baissé de plus de 10%. Ces trois derniers mois, 200 000 personnes ont retrouvé le chemin du travail. Voici donc l'emploi revenu à son niveau d'avant-crise. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
C'est d'abord ce que nous disent ces chiffres publiés aujourd'hui par le ministère du Travail pour le troisième trimestre.
Oui Hélène, c'est très net. Il y a une baisse de près de 6% du nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité. Principaux bénéficiaires de cette embellie, les jeunes de moins de 25 ans, moins 8,5%, grâce notamment aux déclarations d'embauche qui repassent au-dessus de leur niveau d'avant-crise. Une tendance qui se confirme également chez les cadres, puisque l'Association pour l'emploi des cadres fait également état d'une hausse du nombre d'entreprises qui recrutent. Là aussi, les offres d'emploi ont retrouvé leur niveau d'avant-crise et les intentions d'embauche sont en hausse pour le dernier trimestre 2021.
Alors si on regarde dans le détail, il y a quand même quelques nuances à apporter.
Oui, il y a notamment un effet de vase communicant dans les chiffres de Pôle emploi entre les chômeurs sans activité, moins de 100 000, et ceux en activité réduite de longue durée, plus 100 000, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de chômeurs qui ont repris un travail, mais en intérim ou en temps partiel. Un classique, selon l'économiste de l'OFCE Mathieu Plane, lors des périodes de transition quand l'économie repart fort après une crise.
La variable d'ajustement dans un premier temps, dans les périodes de crise, c'est effectivement ces contrats courts. C'est aussi la raison pour laquelle les jeunes sont souvent les premiers exposés en cas de crise, hein, et en période de reprise, c'est exactement l'effet symétrique. Les entreprises embauchent d'abord en contrat court, en intérim, avant de le transformer en contrat long. C'est finalement une réponse que les entreprises peuvent apporter aux difficultés de recrutement et à l'attractivité.
L'attractivité des métiers reste un sujet pour un certain nombre de secteurs, comme l'hôtellerie-restauration, qui ont toujours du mal à recruter. Les métiers en tension risquent de le devenir encore plus. Pour les cadres, l'APEC souligne que la période s'annonce particulièrement propice pour ceux qui envisageraient de changer d'entreprise.
Et si l'on regarde l'ensemble du monde, la France s'en sort plutôt bien parce que la pandémie a eu un impact sur l'emploi plus sévère que prévu. Remarque l'Organisation mondiale du travail, il manque encore 131 millions d'emplois à temps plein au total. Les pays plus développés, plus vaccinés s'en sortent mieux que les autres. L'Europe et l'Asie centrale mieux que les Amériques et les États arabes. Ce qui confirme une reprise à deux vitesses. Et ce sont les jeunes, les femmes et les moins qualifiés qui en pâtissent le plus.
Le gouvernement va chercher à comprendre ce chiffre qui marque aujourd'hui.
Un lit sur cinq fermé dans les grands hôpitaux publics, faute de personnel. C'est le constat de l'enquête dirigée par le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. L'absentéisme augmente, les recrutements sont difficiles, les conditions de travail n'aident pas, pointent les professionnels. Romane Porcon est à Marseille.
Faute de lits, faute de soignants, certaines opérations sont annulées ou reportées. Jean-Luc Jouve est chef du service orthopédie pédiatrique de la Timone.
J'ai 30% de lits fermés, ce qui fait qu'aujourd'hui, je déprogramme des patients. Ce matin, j'avais une colonne vertébrale à opérer chez un enfant, il manquait une infirmière anesthésiste dans la salle, donc le chirurgien, l'anesthésiste, l'infirmière anesthésiste, on est tous restés les bras croisés parce qu'une personne manquait à la chaîne.
Et cette situation ne date pas du Covid-19, elle s'est même aggravée.
Il y a maintenant 2 ans, le collectif Interhôpitaux dont je fais partie était dans la rue pour dénoncer ces conditions-là. Il n'y a pas eu depuis le Covid de gestes fort. Maintenant, les gens sont résignés, baissent les bras. Parfois même, certains abandonnent leur profession médicale ou paramédicale.
Ils sont nombreux à claquer la porte de l'hôpital, comme dans le service de Stéphane Berda, chirurgien digestif à l'hôpital Nord.
Aujourd'hui, on a 25% en chirurgie digestive de lits fermés. C'est qu'on a une fuite des personnels. On parle beaucoup des infirmières et on a raison. Je pense que c'est celles qui souffrent le plus. Il n'empêche qu'il y a aussi des médecins qui quittent l'hôpital. Moi, je peux vous dire que j'ai appris la semaine dernière que 4 collègues de renom vont quitter mon établissement. Je pense que l'hôpital risque de devenir une espèce d'hospice. Et si on n'a pas aujourd'hui cette prise de conscience, c'est-à-dire un investissement très fort, pas que financier, il n'y a pas que ça, il y a aussi peut-être une réforme du statut, il y a plein de choses à voir, on va dans le mur et je suis inquiet à très court terme.
À Marseille, il manque aujourd'hui plus d'une centaine d'infirmières.
Le phénomène n'est pas nouveau, s'est défendu le porte-parole du gouvernement ce midi. On ne rattrape pas 30 ans en 4 ans, dit Gabriel Attal, qui confirme tout de même une enquête dans l'ensemble des établissements de santé. Et l'hôpital toujours sous tension à cause du Covid, le nombre d'hospitalisations ne baisse pas. L'épidémie de bronchiolite, elle touche à présent 11 des 13 régions de métropole. Les deux dernières, la Bretagne et la Corse, devraient bientôt les rejoindre, selon les autorités sanitaires. Des soignants qui viennent d'obtenir gain de cause à Grenoble. 9 salariés des hôpitaux de Drôme Nord qui contestaient leur suspension pour non-vaccination parce qu'ils étaient en arrêt maladie. La loi n'est pas claire sur le sujet, Willy Moreau, donc c'est un soulagement pour ceux qui ont fait ce recours en justice.
La fin d'un mois et demi d'incertitude pour cette salariée.
Compliqué quoi, on roule pas sur l'or. Hein. Heureusement que je suis bien entourée par ma famille, parce que on a déjà, voilà, si on est en arrêt maladie, c'est pas pour rien. C'est que déjà, on a des problèmes de santé. Et de plus, subir cette pression et puis cette menace, c'est vraiment grave. Hein.
Le salaire va de nouveau tomber à la fin du mois et l'ancienneté reconnue. Le tribunal administratif de Grenoble estime que ces agents n'ont pas d'obligation à être vaccinés dans leur cas particulier. Maître Anne-Valérie Pinet les représente.
La loi prévoit que l'obligation vaccinale s'applique aux agents hospitaliers en activité et le tribunal a considéré que la définition de l'activité est une activité effective. À partir du moment où vous êtes en arrêt maladie, vous êtes hors les murs du centre hospitalier, par définition. Vous n'êtes donc pas en activité effective et donc vous ne pouvez pas être suspendu pendant toute la durée de votre congé maladie.
Mais cette décision ne vaut pas partout. Ailleurs, comme à Bordeaux, des tribunaux ont considéré à l'inverse qu'un soignant pouvait être suspendu pendant son arrêt maladie.
Willy Moreau, France Bleu, Drôme Ardèche. Avec le Covid, les Français ont déserté les lieux culturels. Étude présentée par le ministère de la Culture aujourd'hui. La moitié des Français n'avaient parmi les pieds au musée, théâtre, au cinéma au début du mois de septembre. 24% expliquent même qu'ils privilégieront désormais les contenus numériques. Le spectacle vivant est un autre chiffre éloquent. Seuls 35% des spectacles programmés dans le réseau des scènes publiques sont réalisés par des femmes. Étude du Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles sur plus de 300 structures, Stéphane Capron.
Ce comptage donne une photographie précise de la place des artistes femmes sur les scènes françaises. Les créatrices sont beaucoup moins exposés que les hommes. C'est vrai dans toutes les disciplines, sauf pour les arts de la marionnette et les spectacles jeunes publics. Les spectacles écrits par des autrices ne représentent que 29% de la diffusion. Les artistes présents sur les plateaux sont majoritairement des hommes à 59%, sauf dans le champ chorégraphique qui est égalitaire. Le Syndéac demande donc à ses adhérents de faire progresser ces chiffres deux fois plus vite que ce que prévoit la feuille de route pour l'égalité et souhaite que cela devienne un critère d'évaluation pour le renouvellement des directions. Dans ce domaine, il y a encore beaucoup de travail à faire, même si le ministère de la Culture inverse la tendance depuis plusieurs années. Aucun théâtre national n'est dirigé par une femme. On approche tout doucement de la parité pour les centres dramatiques nationaux, mais on en est très loin pour les centres chorégraphiques ou les scènes nationales.
Et après ce constat, voici une bonne nouvelle. Après plus d'un an de séparation avec son public, le Cirque Phénix, l'un des plus grands au monde, revient avec un spectacle Gaïa, nouvelle création réunissant une quarantaine d'étoiles féminines à Paris.
Au septième jour d'audience du procès des sondages de l'Élysée, Patrick Buisson est de retour à la barre.
L'influent conseiller de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui a largement bénéficié avec sa société Publifact des sondages commandés par la présidence sans le moindre appel d'offres. Il est aussi accusé d'avoir détourné 1 400 000 euros d'argent public. C'est sur ce point que Patrick Buisson était entendu aujourd'hui, toujours aussi bavard. L'Aurélie Carib, il s'est défendu bec et ongles.
Ces marges indues sont un produit de l'imagination, s'étrangle Patrick Buisson, qui peut nier la réalité de mon travail. Pendant plus de 2 heures, chiffre à l'appui mais parfois confus, il a tenté de démontrer que non, il ne s'était pas rempli les poches sur le dos du contribuable. Mieux, dit l'historien, il aurait fait économiser à la présidence de la République plus d'1 600 000 euros. Grâce à sa position incontournable dans le milieu, Patrick Buisson explique avoir obtenu de copieux rabais auprès des instituts de sondage jusqu'à -60%, et c'est cette marge négociée qui aurait rémunéré sa prestation. En parallèle, il touche chaque mois 10 000 euros d'honoraires, Guibert pour une mission au départ confidentielle, conseiller stratégie et conseiller image de Nicolas Sarkozy. Sur le montant, le septuagénaire relativise. Si j'avais été salarié, ça fait du 20 euros de l'heure, à peine plus qu'une femme de ménage. L'ancien journaliste de Minute décoche aussi au passage quelques flèches en direction du juge d'instruction, Serge Tournaire. Vous dites que vous êtes victime d'une justice politique, l'interroge le président. Je dis que je suis victime d'une enquête menée exclusivement à charge, répond Patrick Buisson. C'est pourquoi je me battrai pied à pied devant vous.
Le procès se poursuit jusqu'au 12 novembre. L'ex-président Nicolas Sarkozy sera lui entendu mardi prochain, couvert par son immunité. Et pendant ce temps, la campagne présidentielle chez les LR, après Valérie Pécresse la semaine dernière, Xavier Bertrand vient de déposer ses presque 500 parrainages d'élus, le double de ce qui est nécessaire pour participer au congrès du 4 décembre. L'équipe de Michel Barnier dit aussi les avoir largement dépassés. Éric Ciotti également. Plus difficile pour les candidats moins connus du public, le médecin Philippe Juvin et l'entrepreneur Denis Père. À Calais, premier contact aujourd'hui entre le médiateur envoyé par le ministère de l'Intérieur et des grévistes de la faim. Au moment où, disent-ils, la pression sur les migrants s'accentue, ils voulaient marquer le coup et ils réclament l'arrêt des démantèlements des camps pendant la trêve hivernale qui commence lundi. Médiateurs et grévistes de la faim se reverront encore demain. Les règles de l'Union européenne, la Pologne va devoir les suivre ou ça va lui coûter cher. La justice européenne vient de décider d'une amende d'1 million d'euros par jour tant que Varsovie laisse sa chambre disciplinaire en activité. Cet organe au cœur d'une réforme judiciaire controversée qui est accusée par Bruxelles de saper l'autonomie des magistrats. L'étranger, c'est aussi au Soudan, 2 jours après le putsch de l'armée, les putschistes qui quadrillent la capitale Khartoum pour tenter de contenir l'opposition. Des militants appellent à mobiliser sur les réseaux sociaux pour une grande manifestation le week-end prochain, tandis que le Premier ministre, lui, a pu rentrer chez lui. Les dernières informations d'Eliott Braché à Khartoum.
Abdallah Hamdok n'a pas été véritablement libéré. Il a seulement été ramené chez lui hier soir sous haute protection. Il n'a toujours pas eu le droit de s'exprimer. À Khartoum, la campagne d'arrestation se poursuit. Avec la coupure du réseau, les informations nous parviennent au compte-gouttes. Plusieurs figures de la société civile ont été arrêtées, notamment parmi les comités de résistance et l'association des professionnels soudanais qui avaient été le fer de lance de la contestation anti-Bachir. Ce matin, les anciens ministres de la Santé, celui de l'eau, de l'irrigation, ainsi qu'un ancien conseiller du Premier ministre ont été arrêtés. La situation est extrêmement préoccupante alors que dans tous les quartiers de la ville, les soldats poursuivent leur raid sur les barricades et la population civile. De nombreux militants sont traqués, passés à tabac, humiliés par les forces armées. Sur les grands axes, on entend toujours le balai des ambulances, parfois des tirs. Selon les médecins d'un hôpital, le nombre de blessés aurait explosé. Autour de 400 personnes auraient été admises dans leur service. Eliott Braché, Khartoum, France Inter.
La situation qui inquiète les capitales étrangères. L'Union africaine a décidé de suspendre le Soudan de ses institutions. La Banque mondiale, de son côté, suspend son aide au pays. Venons-en à présent à l'affaire Carlos Ghosn, qui continue au Japon. L'ex-patron de Nissan et Renault, grand absent du procès qui se tient en ce moment à Tokyo, et où sont jugés son ex-subordonné Greg Kelly et un représentant de Nissan avec une défense bien différente. Si Nissan accuse son ex-patron d'avoir voulu dissimuler des salaires aux actionnaires et reconnaît la responsabilité de l'entreprise, Greg Kelly, l'ex-directeur juridique, réfute toutes les accusations. Le parquet vient de requérir 2 ans de prison contre lui. Il espère la relaxe et s'en explique au micro de Karine Nishimura à Tokyo.
Une longue lecture de près de 5 heures sur un ton monocorde, la conviction ne s'entend guère dans la diction de l'avocat de Greg Kelly, ex-subordonné de Carlos Ghosn chez Nissan. Et pourtant, au terme de ce procès fleuve, les centaines de pages de cette plaidoirie en japonais sont censées démonter point par point toute l'accusation portée à l'encontre de cet Américain. Il est accusé par le pôle financier du bureau des procureurs d'avoir conspiré pour qu'une partie des revenus de Carlos Ghosn ne soit pas déclarée aux actionnaires, ce entre 2010 et 2018. Greg Kelly nie tout en bloc, comme il nous l'a répété à la sortie du tribunal.
Il n'y a aucun délit. Carlos Ghosn n'a jamais reçu aucune paie supplémentaire et il n'y avait aucun engagement pris. Pas de paiement, pas d'accord de paiement, donc pas de délit.
Selon Greg Kelly, même si diverses méthodes ont été étudiées pour rémunérer davantage Carlos Ghosn, aucune n'a été actée. Les procureurs estiment au contraire que Carlos Ghosn avait reçu l'engagement de percevoir ultérieurement des sommes prédéterminées et que les actionnaires auraient dû en être informés. C'est ce point que les 3 juges vont devoir trancher. Le verdict est attendu le 3 mars 2022. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Et puis aux États-Unis, des poursuites pénales ne sont pas exclues contre Alec Baldwin, l'acteur, dit ce soir la procureure, lui qui a accidentellement tué une directrice de la photographie sur un tournage avec une arme qui était chargée à balles réelles.
À quelques jours de la Toussaint, la défenseure des droits Claire Hédon estime qu'une réforme de la législation funéraire s'impose.
Et c'est un vrai sujet de société, une société qui a changé, c'est bien toute la question depuis la rédaction de ce texte, héritage en grande partie de l'époque napoléonienne. Bonsoir Cécilia Arbonin.
Bonsoir.
Dans ce rapport, la défenseure des droits qualifie le droit funéraire d'ancien, de fragmentaire. Il faut, selon elle, l'adapter pour prendre en compte les nouvelles formes de famille aujourd'hui.
Oui, la hausse du nombre des divorces, les familles recomposées, l'instauration du pacte civil de solidarité, le PACS en 1999, le mariage homosexuel en 2013. Bref, des situations jusque-là inédites doivent être traitées. La Fédération nationale des pompes funèbres, qui regroupe 400 professionnels en France, est régulièrement sollicitée à son standard par des proches de défunts perdus, pas toujours informés de leur légitimité et qui découvrent qu'ils sont qualifiés d'étrangers ou encore d'alliés. Écoutez Florence Fraisse, déléguée nationale de la Fédération.
Qu'est-ce qu'on entend par allié de la famille? Est-ce qu'il s'agit d'amis? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui vivent en concubinage? Très souvent, nous, on se retrouve à dessiner sur un petit coin de table l'arbre généalogique de la famille pour comprendre qui est qui et qui, de droit, peut prendre telle ou telle décision par rapport aux obsèques, par rapport à l'inhumation ou la crémation.
Et puis, il y a la méconnaissance de la loi sur la concession, car le droit à disposer d'une tombe n'est pas éternel. C'est comme un bail qu'il faut penser à renouveler. Florence Fraisse a reçu il y a quelques jours un appel affolé d'un descendant qui a découvert que son aïeul gisait dans la fosse commune.
La concession a pris fin, les ossements ont été déposés dans une plus petite boîte, si vous voulez, à l'ossuaire communal. Tout ce qui était de l'ordre de la sépulture, du monument qui était dessus ou des plaques, etc., a été repris par la commune pour refaire de la place dans le cimetière. Donc le règlement de compte familial s'est fait bien après le décès de la personne qui avait été inhumée.
Et oui, parce que le deuil, Hélène Philippe, parfois ça ravive de vieilles querelles dans les familles fracturées.
Merci beaucoup Cécilia Arbonin. On vous en parlait il y a quelques semaines sur France Inter, 7 policiers sont officiellement convoqués devant le conseil de discipline dans l'enquête sur le féminicide de Mérignac en mai dernier. Chahinez avait été brûlée vive par son compagnon alors qu'elle avait déposé une plainte pour violence un mois et demi plus tôt. Celui qui a recueilli la plainte, mais aussi deux commissaires et le plus haut gradé du département, le directeur départemental de la sécurité publique, sont convoqués devant le conseil de discipline et ils vont devoir s'expliquer sur d'éventuelles défaillances. Et voici donc le moment de la restitution officielle des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey au Bénin. Emmanuel Macron l'avait promis dans son discours de Ouagadougou il y a 4 ans. La remise avait lieu officiellement cet après-midi au musée du Quai Branly à Paris. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Le chef de l'État qui a donné un sens politique à ce moment historique.
Historique, oui, ces trônes sculptés, ces statues royales d'hommes lions ou d'hommes poissons qui vont retrouver leur terre. Il y aura un avant et un après, s'enthousiasme l'historienne Bénédicte Savoie.
Qui aurait pu imaginer que la France, si longtemps sourde aux demandes de restitution venues d'Afrique, serait le premier pays du monde à restituer aujourd'hui à un pays africain une part si importante de son passé? Personne.
Personne, et pour cause.
Car nous savons tous ici combien ce sujet est sensible, combien il est aussi historiquement clivant.
Et c'est l'aspect politique de ce moment. Le président veut réchauffer les relations avec l'Afrique où la Chine ne cesse de gagner en influence. Il veut aussi envoyer un message aux jeunes Français issus de l'immigration africaine. Mais il est accusé, comme souvent, de décider seul. Alors il annonce une loi pour encadrer les futures restitutions. Accusé aussi d'ouvrir la boîte de Pandore, quasiment de vouloir vider les musées.
Le but de tout cela ne serait pas de renationaliser de manière parfaite les patrimoines de chacun. Ce serait une folie. Non pas un rétrécissement, mais la possibilité offerte que l'universalisme soit accessible partout. C'est cela le combat que nous devons mener.
Emmanuel Macron, représentant du camp de l'ouverture face à ceux du repli, suivez son regard, un discours que le président développe et développera encore sur bien d'autres sujets dans les mois à venir.
Et parmi ces 26 œuvres donc rendues à la France, rendues par la France au Bénin, des statues royales, des portes en bois, des bâtons de danse, précieux témoignages de ce royaume qui a régné au XVIIIe et 19e siècle sur l'actuel Sud-Bénin. C'est à lire aussi sur franceinter.fr.
Et merci beaucoup Hélène Philly, on se retrouve, j'allais dire bientôt, demain, oui. Mais demain c'est bientôt. Dans un instant, c'est le téléphone sonne avec notamment Clara Dupont-Mono et son livre S'adapter qui vient d'être couronné du féminin. On parle de ce que provoque l'arrivée d'un enfant handicapé dans une fratrie, comment on vit quand on est le grand frère, la grande sœur, comment on implique les frères et sœurs aussi quand on est parent, mais sans les charger, tout cela au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel d'abord.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Et le Dick Alak, rebonjour avec une belle journée. Voilà pour le programme de demain et c'est tant mieux.
Oui, sur la plupart des régions, le soleil s'imposera vite. Alors, il faudra parfois attendre la dissipation des nuages bas et des brouillards. Ils seront nombreux au nord de la Loire jusqu'au Val-de-Saône et en Alsace. Quelques-uns aussi du côté de la Garonne. Alors, ça ne durera pas. Le soleil reprendra ses droits. Mais il y aura quand même quelques bémols vers le Languedoc-Roussillon et les Cévennes. Là, c'est le vent de sud-est qui apportera des nuages et quelques pluies. Parfois, un coup de tonnerre sur le littoral l'après-midi. Un voile nuageux épais concernera la Corse et l'est de la Provence. Et puis, sur la pointe Bretonne, une perturbation s'invitera. Elle donnera de la pluie l'après-midi avec un vent de sud jusqu'à 70 km à l'heure.
Et des températures contrastées, Élodie.
Oui, 1 à 4 degrés dans l'est le matin contre 10 à 13 près de la Manche et près de la Méditerranée. Et puis l'après-midi, ce sera plutôt doux avec 15 degrés à Strasbourg, 17 à Lille, 19 à Paris, Caen, Rennes, Lyon ou Bastia, 20 degrés à Poitiers, 22 à Bordeaux et à Marseille et 23 à Biarritz.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.